Donc tout d'abord, je vais laisser la place pour une intervention de Pascal Hanotel, qui travaille à titre professionnel comme paysagiste conseil et donc fait partie des paysagistes conseils de la DDT. Donc elle a été choisie et donc elle accompagne certains territoires sur notre territoire y compris. Donc je vous laisse peut-être en dire plus.
Peut-être juste deux mots sur ce que c'est qu'un paysagiste conseil. Donc on est 150 à peu près recrutés par l'État. On a tous des activités professionnelles en parallèle. Et donc on est quelques jours par mois dans les territoires au service des services de l'État et de vos territoires pour avoir des conseils ou des interventions. Voilà, de la même manière, il y a des architectes conseils qui sont à peu près du même nombre et donc on intervient en DDT, en DREAL ou au ministère en centrale, suivant les postes sur lesquels on est promu. Et donc, j'en profite juste pour faire une petite introduction, puisque moi je ne connaissais pas votre territoire, c'est-à-dire qu'on est en poste pendant un certain nombre d'années, donc j'ai vu d'autres territoires, et je suis issue d'autres territoires que le vôtre, et ce qui m'a vraiment frappée dans vos territoires, étant originaire de régions qui ont vraiment connu les guerres, les dévastations, les bombardements, vous avez un patrimoine extraordinaire. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire, parce que à force de le voir, on l'oublie, mais c'est vraiment une chance. C'est-à-dire que le moindre village, le moindre hameau, le moindre ensemble urbain, vous avez encore ces siècles d'histoire qui sont là et qui sont magnifiques. Donc c'est vraiment précieux et je pense qu'il faut le regarder avec cette approche. Donc, petite introduction. Alors, juste sur les sujets qu'on m'a demandé de développer devant vous, j'ai deux images qui parlent d'une qui est celle de vos campagnes, puisque vous avez aussi un territoire qui est productif, qui est riche, qui a des vallées, qui a des collines, qui est très diversifié, ce qui en fait toute la qualité et toute l'identité, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout homogène, et que cette question de l'identité de chaque espace, c'est aussi ce qui doit sans doute vous conduire dans votre réflexion, c'est-à-dire que les objectifs sont les mêmes, mais les solutions ne sont pas forcément les mêmes dans chaque espace. Alors, sur la question de la campagne, sachant qu'aujourd'hui, on a plutôt des démarches où on met les choses dans des cases. On parle de l'eau, on parle de la santé, on parle des villes, et puis on parle de la campagne. Et finalement, moi, je suis assez convaincue, puisque c'est le propre de la démarche paysagère, c'est qu'il faut avoir une vision écosystémique de l'ensemble de ces démarches, et que finalement, chaque action doit se faire au bénéfice de l'ensemble de ses objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse dans une case, mais chaque réponse doit être bénéfique à l'ensemble des sujets. Donc cette question de l'écosystémie des réponses, elle passe aussi par une approche qui est peut-être moins techniciste, on va dire, et je ferai l'apologie du diffus, c'est-à-dire que c'est la somme de toutes les petites actions aussi, que l'on peut faire, et les petits ruisseaux font les grandes rivières, et que c'est pas parce qu'on se dit, là c'est tout petit, ça vaut peut-être pas le coup, je pense que c'est vraiment un mode d'approche qui fait que ça doit entrer dans tous les choix qu'on va pouvoir faire sur le moindre petit aménagement. Alors, la photo que vous avez derrière, on voit qu'il y a encore des forêts, qu'il y a des haies, moi je voudrais partager avec vous les résultats là d'un rapport très récent qui a été commandé par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, c'est un rapport qui est sorti là au mois d'avril, et qui est extrêmement alarmant, puisqu'il nous dit on a perdu 70% des haies depuis 1950. Bon, ça on savait qu'on en perdait, mais est-ce que 70%, c'est quand même des chiffres terribles? Et surtout, le mouvement s'accélère. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mouvement est loin d'être enrayé. C'est-à-dire qu'entre 2006 et 2014, c'était 10 000 km de haies qui disparaissaient par an. Entre 2017 et 2021, c'est 23 000. C'est-à-dire qu'on a, au lieu d'arrêter, on a doublé. Donc je pense que c'est un sujet vraiment de réflexion, de se dire qu'on plante 3 000 km par an. Donc on est loin de compenser la disparition. Donc il y a à la fois l'action, c'est comment on enraye, comment on arrête franchement le mouvement, parce que c'est exponentiel. Alors qu'on sait que la haie, c'est quand même la survie de nos sols. Enfin, c'est une réponse à beaucoup de sujets. C'est une réponse à la qualité des sols, une réponse à la gestion de l'eau, une réponse à la biodiversité. Voilà, je voulais juste vous dire qu'on est loin d'avoir amorcé même le virage pour y arriver. Ensuite, sur le paysage, il y a un sujet qui me paraît important sur le rapport qu'en ville-campagne, c'est la question de la campagne publique. Puisque plus on va aller vers des densifications inéluctables, et puis bienvenue sur nos cœurs de bourg, sur toutes les dimensions d'habitat qu'on va avoir, il semble important que du coup il y ait plus de solidarité entre campagne et ville, et que le réseau des chemins ruraux, c'est aussi un accès à la nature et à la campagne qui est très important. C'est aussi des chemins qui disparaissent à la vitesse grand V. Donc l'accès aux petits paysages domestiques devant chez soi, et on a vu avec le Covid comme c'était important d'avoir toutes ces échelles, hein, du domestique, du collectif, mais aussi de l'accès aux petits paysages et aux grands paysages, c'est une politique qui est commune à l'agriculture et aux villes de partager le bénéfice de ces espaces. L'autre sujet sur la question des campagnes, c'est la question de l'arbre. Et là, elle est partagée entre la ville et la campagne. Nos arbres disparaissent aussi. Et on sait qu'on n'aura jamais un développement aussi rapide. Les arbres qu'on plante aujourd'hui, ils atteindront jamais les développements de ceux que nous avions. Donc protéger, un, les arbres qui existent, et ensuite replanter, mais replanter de façon assez massive, parce qu'aujourd'hui on est très timide, voilà, c'est le mot. Et on arrive à avoir des arguments, c'est on ne plante pas d'arbres parce qu'il faut ramasser les feuilles. Je pense qu'à un moment donné, on veut de la nature, acceptons la nature dans toute sa dimension, c'est-à-dire à la fois ses contraintes, ses atouts, l'entretien qu'elle génère, et puis c'est un réapprentissage. Les feuilles, elles peuvent rester un certain temps, on n'est pas obligé de les enlever à la minute. Voilà, donc cette question de retrouver la place de l'arbre, encore une fois, on sait que comme les haies, c'est un grand bénéfice, ça stocke le carbone, ça nettoie les sols, ça stocke l'eau. Donc tous ces éléments qui, de manière diffuse et répétitive, ce sont des capacités de réponse qui peuvent être extrêmement intéressantes et importantes. Le 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est parfois beaucoup plus qu'un gros. Donc l'arbre, c'est aussi l'arbre en ville. Alors on va peut-être passer à l'image d'après. Ce que je regrette, c'est que finalement, là je suis tombée dans la dichotomie campagne-ville, alors que je voulais plutôt vous parler de comment on parle en même temps de la campagne et de la ville. Ça pose un peu la question des franges. C'est-à-dire aujourd'hui, on va se retrouver avec des villes qu'on va chercher à densifier, où on évite de se déployer et d'aller coloniser la campagne. Mais du coup, ça donne sans doute beaucoup plus de valeur à tout le paysage des franges autour des villes, qui peuvent être des espaces d'interface extrêmement intéressants, voire à développer une agriculture particulière, ou à les gérer d'une manière aussi où l'urbain rencontre le rural. Et puis, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu refaire la ville sur la ville. Vous avez des villages magnifiques, ils ont été beaucoup stérilisés par la voiture. Peut-être c'est comment est-ce qu'on apprend à ne plus prioriser la voiture, on sait qu'on en a besoin. Mais comment est-ce qu'on peut reconquérir ces espaces de convivialité qui existaient dans les villages? En plus, en général, sur les villages, les plus beaux endroits, c'est le bien commun. Ce sont les lieux qui sont des lieux de convivialité magnifiques. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là, mais en refaisant l'apologie de l'arbre qui peut aussi revenir dans les espaces des villes. Ah, puis mon dernier mot. Il faut quand même avoir conscience, ce qui m'a aussi frappé sur votre territoire, c'est qu'on a, je pense qu'on est dans l'un des départements où il y a eu le plus de lotissements développés. Des lotissements avec souvent des parcelles petites, des implantations au milieu des parcelles, des espaces publics extrêmement réduits, c'est-à-dire on ne peut même pas mettre d'arbres. Et du coup, je pense que là, on a l'un des plus gros problèmes d'îlots de chaleur qu'on puisse avoir. Donc ça signifie que peut-être c'est un problème auquel il faut s'atteler. C'est comment est-ce qu'on peut remettre ne serait-ce que des arbres dans ces espaces, puisque les jardins sont trop petits, on ne peut même pas mettre d'arbres, et que dans les prochains espaces à concevoir, la dimension de l'espace public et de la place de l'arbre, ça doit être la mesure de la conception de ce nouveau lieu. Voilà.
Je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui entame le débat sur la qualité paysagère de nos campagnes. Je vais laisser donc la place à des questions de la salle.
Oui, bonjour. Florence Duc à Cazères. Concernant les arbres, à Cazères, on est face à des problèmes qu'on aimerait bien lever. Il y en a qu'on souhaiterait planter, mais il y a les autorisations de réseau et on nous dit qu'il faut les mettre à 1,50 m, je crois. Enfin, il y a eu des changements de réglementation. Il y a encore une vision de la gestion des espaces verts un peu ancienne, où le bitume arrive jusqu'au collet des arbres, ou même s'il y a un petit peu d'herbe, le rotophylle, il est passé, quitte à abîmer les arbres, et qui on peut solliciter de l'extérieur pour nous aider à mieux communiquer et à aider les gens à changer de vision de la gestion des arbres, de leur laisser un petit peu de sol pour qu'ils respirent un peu, et de laisser le sauvage au pied des sols prendre place et vie pour l'arbre. Et comment on peut nous aider aussi à replanter des arbres, quelles essences par rapport à la hauteur, et puis peut-être par rapport à l'occupation des racines dans le sol, qui peuvent être compatibles avec des réseaux proches, ou voilà les questions.
Alors, vos questions sur les réseaux, elles sont particulièrement justes. Il y a peut-être déjà à réapprendre de ce qu'on a mal fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que le sol, c'est pas le monopole des réseaux. Il y a vraiment une bagarre souterraine que vous pouvez même pas imaginer quand on intervient en ville, c'est pour se faire de la place pour planter des arbres. Donc le sujet, c'est de se saisir de tout ce qui est intervention réseau, bien en amont, puisque on sait qu'un réseau aussi, ça se rénove, ça se renforce, ça se remet en état. Se saisir de toutes ces occasions-là pour remettre les réseaux là où ils devraient être pour faire de la place aux arbres. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à penser à l'envers et à se dire, là, moi, je veux planter des arbres et je me saisis de toutes les opportunités. Donc, c'est sur le long cours, hein, mais ça veut dire qu'il faut pas louper les discussions avec les concessionnaires pour les obliger à s'installer là où vous souhaitez qu'ils s'installent. Parce que effectivement, c'était bien pratique. Aujourd'hui, on a des espaces mais où les réseaux sont mis à 2 mètres les uns des autres et on arrive à ne plus avoir d'espace pour l'arbre. Donc, je pense que déjà, il y a une attitude, c'est un peu la charme de l'arbre, c'est se dire, la place de l'arbre, c'est quoi? Et on lui garde, comme il y a des galeries techniques pour les réseaux, on lui garde des emprises sur lesquelles on interdit qu'il passe le moindre réseau. Après, ce qui est compliqué, c'est quand ils existent et qu'il n'y a pas de programme de rénovation. Alors, il faut trouver le 1,50 m de distance. Après, on peut mettre des films qui empêchent les racines, mais c'est pas les meilleures solutions. Donc, la vraie solution, c'est plutôt de se dire, je me donne un peu plus de temps, mais dès que j'ai cette occasion-là, et je l'inscris dans mes documents, dans mes chartes de travail sur l'espace public. En plus, les concessionnaires ont trop l'habitude de faire ce qu'ils veulent, quoi. Je pense que c'est faire passer le message, voilà.
Merci de remettre les priorités dans le bon sens. J'avais une question sur les chemins, parce que vous semblez convenir que les élus, les habitants et les agriculteurs vont dans le même sens dans la préservation des chemins et dans l'utilisation des chemins. Je suis de longage, c'est pas tout à fait ce que l'on constate en réalité. Est-ce que vous avez une expérience de cohabitation qui s'est bien passée, où les chemins étaient non seulement préservés, mais éventuellement entretenus?
Oui, Pierre Viel, maire d'une petite commune et vice-président de la communauté de communes de Volvès. Moi, j'ai une question un peu plus globale. Vous avez dit que, effectivement, il faut redonner une image au paysage. Mais comment mettre en équation le paysage, comme je souhaiterais, et puis le développement de la ruralité, je dirais plus précisément d'une certaine agriculture, puisque, a priori, ce sont les agriculteurs qui dessinent un petit peu le paysage. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut réserver des espaces publics. Très bien, pas de souci. Mais quand je vois à l'heure actuelle toutes les constructions qui se font en bordure de route, ce matin je suis passé sur un village, c'est des constructions R+3, en bordure de route, il n'y a aucun espace public. Et il suffit de faire le tour de quelques villages ici autour, hein, pas besoin d'aller très loin. Donc il y a une contradiction entre la loi ZAN, ce que vous souhaitez, et je trouve que dans votre propos, je vous le dis franchement, j'adhère au propos, il n'y a pas de problème là-dessus, et la réalité à travers les PLU, etc., PLUI ou autre, elle est fort différente. Donc, est-ce que c'est pas un vœu pieux?
Alors, ça soulève pas mal d'interventions. On continue les interventions et peut-être on vous laissera synthétiser.
Moi, ma question, elle était très précise, même si j'en ai énormément. Vous avez commencé votre propos en parlant des haies. Et j'ai une agricultrice, quand on est intervenu avec l'association dont je m'occupe, pour ouvrir un chemin, nous a dit « il est interdit d'arracher les haies ». Et donc, je suis surprise de voir que vous dites que donc cette interdiction, elle est appliquée où, comment, voilà. Je ne me suis pas présentée, je suis Joëlle Douarche, adjointe à Montesquieu-Volvestre.
Oui, Maryse Veuza-Baronia, je suis maire de Rieux-Volvestre et je suis aussi une élue départementale. L'intervention sur les chemins ruraux de Longage qui rejoint votre intervention. Je crois qu'ici, on est tous persuadés que les chemins ruraux sont essentiels pour maintenir l'accès à la nature aujourd'hui et encore plus demain. Et que quand même, on a des outils pour le faire. D'abord parce que en matière de loi, les chemins ruraux sont quand même protégés, même si on les inscrit au PDIPR, au conseil départemental, c'est-à-dire qui gère le PDIPR, ces chemins-là, vous les rendez inaliénables, que c'est très compliqué pour quiconque veut s'en accaparer de le faire. Et ensuite, ça c'est l'expérience locale sur Rieux-Volvestre, où c'est quelque chose qui se fait sur la durée, la reconquête, je veux dire, des chemins ruraux. Et c'est un travail permanent de dialogue entre tous les partenaires. Et tous les partenaires, bien sûr, il y a les élus locaux, il y a les habitants, et il y a aussi, bien sûr, les agriculteurs et parfois aussi les chasseurs. Et je crois qu'il faut y aller avec cette démarche de dialogue. Il faut pas y aller de manière frontale, il faut y aller en étant dans la compréhension des problématiques des uns et des autres. Je donne un exemple tout simple, hein, c'est-à-dire que parfois il y a des chemins ruraux qui traversent des parcelles qui sont aujourd'hui cultivées. Alors bien sûr, on peut s'adresser à l'agriculteur et lui dire hein, « c'est un chemin rural en règle ». Eh bien là, il faut travailler justement l'idée de donner une compensation, hein, c'est-à-dire plutôt que de faire passer ce chemin rural en milieu de parcelle, eh bien on le fait passer tout autour de la parcelle, ou alors on essaie de faire en sorte d'avoir du troc, de troquer, pour faire en sorte que on trouve une solution. C'est tout ça qu'il faut mettre autour de la table. Et moi, je peux vous assurer, hein, on est à peu près à une quarantaine de kilomètres de chemin de randonnée sur la commune. C'est un travail de longue haleine, mais on y arrive à condition qu'on ait vraiment une volonté de dialogue. Et à ce propos-là, c'est par rapport aux espaces publics, j'ai entendu, je pense, de Cazer. D'abord, je pense que vous pouvez, en tant qu'élu, solliciter le CAUE qui est représenté aujourd'hui, qui vous permettra de travailler en amont de vos projets et donc forcément en amont des travaux avec les titulaires de réseau. Et ensuite, en tout cas, Joël, à ma gauche, me le faisait remarquer sur les aménagements des espaces verts, la végétalisation des communes. Je rappelle que le conseil départemental accompagne les communes à hauteur de 40% et que donc vous pouvez faire passer des dossiers. Et bien entendu, nous les accompagnons d'autant plus qu'ils ont été réfléchis en amont et de manière globale.
Merci. Donc je suis Corinne Martien-Lebray, je suis de Montesquieu-Volvestre et je suis une citoyenne du CODEF, je ne suis pas une élue. Juste une remarque par rapport au paysage que vous avez montré tout à l'heure, la première photo. J'ai envie de dire, ça dépend de quel angle on prend la photo, puisqu'aujourd'hui déjà nos paysages sont couverts de panneaux solaires, que ce soit dans des champs directement, que ce soit sur des lacs de gravière, ou que ce soit sur des toitures de bâtiments agricoles notamment, mais je pense que les choses vont se développer. Donc est-ce qu'on peut accepter que nos paysages de cette manière-là évoluent, donc avec des panneaux solaires, voire peut-être s'il y a des zones concernées, des éoliennes? Et qu'est-ce que notre document donc de développement stratégique peut accepter et de quelle manière il peut aussi éventuellement limiter ? En sachant que c'est une discussion récente qu'on a eue au niveau du CODEV, on sait bien que toute cette production d'énergie renouvelable est forcément nécessaire et que ce qui s'implante à la campagne est surtout utile en kilowatts pour nos villes.
Nadia Estan, vice-présidente au pays sud-toulousain, chargée du plan climat. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que lorsqu'on ne peut pas planter un arbre en centre-bourg, est-ce que la végétalisation des murs, des parois, peut compenser et n'est pas plus simple à mettre en œuvre?
Bonjour, Casari, maire de Nouy. Vous avez évoqué quelque chose de très fort tout à l'heure, c'est l'espace public, le lieu de convivialité. Donc, pour établir certains liens entre les personnes. Et donc, avant, moi, j'ai connu ce principe, comment ça fonctionnait, mais c'était lié aussi un petit peu à l'activité commerciale qu'on pouvait avoir. Les petits commerces qui disparaissent très fréquemment maintenant. Et quand on veut les rétablir, on est confronté à un problème, c'est pour récupérer donc les locaux commerciaux qui sont devenus des locaux d'habitation. Si vous avez des recettes, parce que bon, nous sommes conscients que pour contenir, si vous voulez, l'individualisme qui se développe à outrance, c'est de rétablir ces liens sociaux par le biais des espaces publics et au centre des villages. Mais c'est très compliqué. Merci.
Alors la question des centres bourgs va être beaucoup plus développée par la suite, mais...
Alors, je vais essayer de répondre à vos questions rapidement, il y en a eu beaucoup. Alors, sur la question des chemins agricoles, je pense que vous avez déjà extrêmement bien répondu, madame. C'est-à-dire, c'est... mon intervention ne voulait pas dire que ça se fait nulle part. Ça voulait juste dire qu'il faut s'y intéresser parce que c'est aussi important que les espaces publics des villes. Souvent, on les oublie un peu. Et que donc d'avoir un réseau dans son PLU de chemin public, voire d'avoir des emplacements réservés pour que vous puissiez les passer dans votre domaine communal, sur l'idée de troquer, de pouvoir arranger aussi, je pense que c'est un espace de dialogue, c'est comme l'espace public où on discute sur jusqu'où va la terrasse du commerçant, jusqu'où c'est l'espace public, c'est de l'espace public, voilà. C'est pour ça que je parlais de campagne publique. Je pense que la notion de campagne publique, elle devient vraiment importante, mais elle est aussi dans cette approche de dialogue et de négociation. Puis en plus, les temps changent, donc il y a des besoins qui peuvent être différents à un moment donné. Un champ doit s'agrandir, puis après peut-être se rétrécir. Mais c'est que le réseau soit suffisamment constitué et reconnu pour qu'on puisse encore se permettre d'aller investir la campagne. Et d'ailleurs, enfin, c'est juste un petit épisode de tranche de vie, quoi. J'ai beaucoup travaillé sur les aires d'autoroute, par exemple. Bah, finalement, dans les aires d'autoroute, quand on a des grandes aires, c'est presque l'endroit, le seul endroit où on peut rentrer dans la campagne. Et vous pouvez vous installer pour pique-niquer. Vous voyez, c'est... Donc juste, peut-être aussi, c'est aussi comme ça que la campagne suisse, qui est... ils ont des petits territoires, hein, et donc une agriculture vraiment de puissance, mais il y a des espaces publics qui ponctuent la campagne. C'est-à-dire, il y a un bois ouvert, un champ ouvert... Étendre la réflexion espace public qu'on contient dans nos villes sur comment ça peut aussi être un peu dans la campagne. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais le travail que vous faites, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Et c'est du dialogue, beaucoup de dialogue.
Il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos propos. Vous comparez la Suisse avec la France, mais la différence essentielle par rapport à la production agricole, c'est qu'en Suisse, ils consomment d'abord les produits, les matières premières produites sur le territoire suisse avant de consommer les produits argentins, brésiliens, etc. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Là, actuellement, ils sont en train de remplir les silos portuaires de blé argentin, brésilien, etc. Nous, on va récolter dans un mois, on nous dira que les silos sont pleins. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre en place le même système qu'en Suisse parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil.
Ouais, moi je parlais pas du tout de la production, je parlais juste sur le système de réseau de promenade au travers de leurs espaces de campagne. Voilà. Et que dans leur espace de campagne, il y a les chemins et il y a aussi des petits espaces type champs, bois qui sont comme des espaces, disons des espaces publics ouverts au public quoi, c'est pas un bois privé, c'est pas un voilà, c'était juste ça, je parlais pas du tout du mode de production. Après juste vous m'avez posé une question sur des panneaux solaires. Moi, sur les panneaux solaires, enfin, c'est ma position, hein. Je pense que les panneaux solaires, il ne doit pas y avoir de concurrence entre les sols et les panneaux solaires. Donc, pour moi, les panneaux solaires, ils n'ont rien à faire sur un sol qui peut être productif. Par contre, on a des tas de toitures de zones d'activité qui, en plus, sont là où on a besoin d'énergie, qui ne sont pas utilisées. Dans les villes, mais souvent, elles ne sont pas très loin. C'est-à-dire, on pourrait d'abord se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire cumuler toiture de zones d'activité ? Parce qu'il y a des hectares. Hein. Enfin, nous, on a fait le test là sur une zone d'activité sur laquelle on travaille à Bordeaux. Et ça peut être un gisement. Par contre, c'est un surcoût pour la construction, parce que c'est un peu lourd. Voilà, il faut le porter en toiture, donc c'est un choix. Donc aujourd'hui, on préfère aller mettre des panneaux solaires sur des terres, parce que ça coûte moins cher, plutôt que d'imposer à des pétitionnaires ou à des entreprises d'avoir un surcoût sur le système de toiture pour pouvoir les poser. Mais bon, voilà, ça c'est ma position. Après, sur l'éolienne, moi j'ai pas de. Je pense qu'il faut aller vers des énergies renouvelables. Voilà, on avait des moulins, pourquoi on n'aurait pas des éoliennes ? En plus, on est dans des dispositifs qui se démontent. Enfin, on n'est pas dans des choses qui, comme des barrages par exemple, sont là pour. On est sur des choses plus mobiles, donc je pense qu'après on fait des choix. Je pense que c'est plus important qu'on ait de l'énergie renouvelable et que c'est tout à fait intégrable dans un paysage si on n'en met pas partout et pas trop près des habitations. Voilà. La végétalisation en façade, pareil, c'est mon point de vue. Une végétalisation en façade, ça ne remplace pas un arbre, quoi. Donc, c'est une façon de compenser. Je pense que ça va très bien en accompagnement, mais je pense qu'il faut surtout s'interroger après sur... Ça accompagne, ça peut être une plantation d'arbres, une plantation d'arbustes et une végétalisation de parois. C'est très bien, mais ça ne suffit pas en soi pour avoir un impact vraiment efficace sur le sentiment de fraîcheur ou de climat. Il faut de l'ombre, quoi, un peu. Par contre, ce qui fait beaucoup de fraîcheur, c'est par exemple... dans une rue, quand vous avez des petits jardins avant, ça a l'air de rien, mais même 3 mètres plantés devant des bâtiments, ça peut complètement changer le climat d'une rue. Hein. On arrive à avoir des degrés d'écart de façon très importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à tout. Après, tu reviendras de toute façon sur tous les sujets.
Je vous remercie beaucoup.